CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, vous écoutez CFM Radio, c'est le magazine du Tarn-et-Garonne et le jeudi c'est consacré à la politique avec Politiquement Votre, avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Qui est notre invité ce midi?
Ce midi c'est Solal Géa qui fait partie avec Jules Dufaux, Anaïs Lomier que nous avons reçu dernièrement, de cette jeunesse qui s'engage et qui fait entendre sa voix. Bonjour Solal Géa.
Bonjour Kader Youb, merci pour votre invitation.
Merci à vous et bienvenue sur CFM Radio.
Merci.
Alors, une jeunesse, je le disais, une jeunesse parfois critiquée pour son abstentionnisme, les trois quarts de la jeunesse de notre pays qui ne se rend pas aux urnes, est en effet particulièrement inquiétante pour le futur de notre démocratie. Une jeunesse qui se désintéresse de la politique, c'est le signe d'un manque cruel de vitalité démocratique. Comment, Solal Géa, redonner à la jeune génération goût et foi dans la vie politique?
Vous avez raison. Tout d'abord, je pense qu'il faut redonner la place à la jeunesse dans le champ politique. Et vous le disiez, il y a une abstention qui est de plus en plus grandissante, une abstention record. On l'a vu lors des précédentes élections régionales, notamment avec une abstention de 87% chez les jeunes. Nous, chez les Républicains, on a, je pense, compris et eu ce déclic. On a redonné toute la place à sa jeunesse, à la jeunesse pour l'élection présidentielle, pour les élections aussi départementales et régionales et pour les élections municipales. On a fait un travail de fond et je peux citer le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carillon, qui a redonné vie un petit peu à ce moment de jeunesse. Nous étions en 2020 un peu moins de 1000 jeunes républicains sur tout le territoire français et nous sommes aujourd'hui en 2022 à plus de 15 000 adhérents.
15 000 adhérents.
Tout à fait, oui, c'est ça. Donc ça montre qu'il y a vraiment un investissement qui est grandissant chez les jeunes et surtout à droite.
Alors pour compléter la présentation, votre présentation, vous êtes donc conseiller municipal, vous faites partie de la liste de Brigitte Barrèche, c'est votre premier mandat?
Oui, tout à fait, exactement.
Et vous êtes aussi responsable des jeunes LR du Tarn-et-Garonne.
Exactement, oui.
Alors, d'où vous est venue cette envie de vous engager? Est-ce que, parce que la fibre politique, on ne l'a pas à la naissance. Est-ce que ça vient de vos parents, des rencontres que vous avez eues ici et là?
Alors moi, je n'ai pas de parents qui font de la politique. Mmh. Il est vrai que je me suis intéressé à la politique lors des élections présidentielles de 2017 et plus précisément en 2016. Cette élection présidentielle, elle était particulière à plusieurs égards. C'était la première fois qu'un président en exercice qui pouvait se représenter ne l'a pas fait. Je parle là de François Hollande. C'était également la première fois qu'une personnalité totalement inconnue fut élue. Je parle d'Emmanuel Macron. Et enfin, c'était la première fois que la droite n'était pas au second tour de l'élection présidentielle. Donc il y avait une véritable fracture politique, en plus de la fracture sociale qui est grandissante. Donc c'est à ce moment-là où je me suis intéressé à la politique et je me suis engagé chez les Républicains au lendemain de l'élection présidentielle.
Au lendemain de l'élection présidentielle,
c'est ça, quelques mois après.
Vous avez un mentor, quelqu'un qui a compté pour vous dans votre première partie de vie politique, si je puis dire?
Bien sûr, je pense que je peux citer aujourd'hui aisément Brigitte Barrège. Je l'ai rencontrée donc, au lendemain des élections présidentielles. On a discuté un petit peu politique et je partage cette même conception d'elle sur l'ordre, sur l'état de droit, sur la laïcité. Et j'ai pu par la suite, j'ai eu cette opportunité de faire un stage dans son cabinet. Et j'ai été sur sa liste pour les élections municipales.
Quel bilan vous faites de ces quelques mois de mandature, à titre personnel?
J'ai la chance d'évoluer modestement en politique et d'être accompagné avec des personnalités qui sont expérimentées. Je peux citer Brigitte Barrèche effectivement de nouveau. Il y en a la secrétaire départementale des Jeunes Républicains, qui aujourd'hui est première adjointe, Marie-Claude Berly. Et on a cette chance d'évoluer dans la majorité municipale à Montauban, dans une bonne ambiance. Une ambiance qui est sereine, qui est apaisée.
Et de nouveau apaisée?
Qui est apaisée, qui l'a toujours été.
Lorsque Brigitte Barrèche avait été empêchée.
Mais disons que c'était une période transitoire et les périodes transitoires sont toujours très compliquées. C'est vrai que le triumvirat qui avait été instauré par Brigitte Barrèche était nécessaire et c'était son choix. Aujourd'hui, il est de retour et c'est tout ce qui compte.
Vous avez des regrets qu'Axel de la Brigole soit parti, par exemple, et que Pierre-Antoine Lévy aussi ait démissionné du conseil municipal? Est-ce que, à titre personnel, toujours, ça fait partie des regrets de votre première, si je puis dire, vie politique?
je pense pas qu'on puisse parler vraiment de regrets. Si on le prend dans l'ordre chronologique, Pierre-Antoine Lévy a effectivement démissionné du conseil municipal
dès l'installation,
en 2020, tout à fait. Aujourd'hui, il est sénateur et il fait un travail formidable, notamment auprès de la jeunesse, avec sa proposition de loi de ticket restaurant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Oui, bien sûr.
Qui permet aux étudiants dans toute la France de se restaurer partout avec ce système du ticket restaurant. Et pour ce qui est d'accès de la Briolle, eh bien c'était son choix. Je pense qu'il retrouve aujourd'hui une vie de famille apaisée. Il a, je pense, tenu la barque pendant ces 10 mois et c'est très bien.
Bon. Est-ce que Solal Géa, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a rebattu les cartes, hein? C'est une assemblée qui, depuis 2017, qui a été assez féminisée, qui a introduit en son sein plusieurs membres de la société civile. Est-ce que ça, vous le portez au crédit du président, même s'il ne fait pas partie de votre camp politique ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut savoir reconnaître les bonnes choses. L'élection d'Emmanuel Macron a permis, effectivement, d'intégrer plus de personnes de la société civile. C'est un fait, c'est très bien.
Plus de femmes aussi.
Et plus de femmes aussi, évidemment. Moi, je pense que c'est très bien. Après, on a vu aussi que c'était des personnes qui n'étaient pas vraiment expérimentées, mais surtout, c'était des pantins. On le voit aujourd'hui, la majorité présidentielle agit aux ordres d'Emmanuel Macron. On le voit avec l'ensemble des restrictions sanitaires qui sont votées un petit peu à l'aveugle. Et c'est ce qui est dommageable.
Ça a toujours été le cas, M. Jacques. Je veux dire, lorsque Nicolas Sarkozy était président, il avait aussi une assemblée qui l'écoutait, qui répondait à ses demandes. Ça a été le cas pour François un petit peu moins, mais c'est souvent le cas. Et c'est le jeu démocratique, quelque part.
Vous avez raison. À la différence que là, je pense qu'aujourd'hui, des questions de liberté individuelle et collective, et c'est ce qui, à mon sens, pose un réel souci.
Est-ce que vous pensez avoir de l'influence sur les politiques, sur la politique? Par exemple, prenons le cas de votre chef de file, Valérie Pécresse, à l'élection présidentielle. On y viendra dans une seconde partie de notre émission. Est-ce que vous, en tant que responsable des jeunes LR du 82, vous avez une influence peut-être modeste, mais est-ce que vous irriguez finalement son programme?
Bien, chez les jeunes républicains, on a une place particulièrement importante, je pense, au sein de cette élection présidentielle, au sein de cette campagne. Chez les jeunes républicains, on a ce qu'on appelle le think tank Athéna, c'est le cercle de réflexion qui est présidé par une doctorante de l'Université de Toulouse qui est brillante, c'est Marie Glinel, où nous avons pu, chaque responsable des jeunes républicains départementaux ont pu faire remonter des idées, des suggestions et travailler...
Elles sont reprises dans le programme ?
Oui, certaines propositions ont été reprises, notamment sur le régalien, notamment au niveau de la protection des forces de l'ordre. Et je pense que c'est essentiel de laisser... toute sa place à la jeunesse et non plus uniquement sur des sujets qui concernent la jeunesse.
Alors, ici, à ce même micro, la semaine dernière, Jules Dufaux, qui fait partie de la République En Marche, qui est quelque part votre homologue dans le parti d'Emmanuel Macron, nous disait que les jeunes, maintenant, ne se contentaient plus de coller les affiches. Hein. C'était un rôle qu'on leur affublait il y a très longtemps. Est-ce que c'est chez les LR, c'est toujours aussi le cas? C'est le cas aussi, on vous utilise aussi pour distribuer des tracts parce que vous êtes quelque part malléable? Ou est-ce que votre rôle, votre rôle dans le parti est plus important que cela?
Bien, moi je dirais que l'affichage et le tractage constituent les bases du militantisme. Ça c'est indéniable, il faut tracter, il faut afficher. Et lorsqu'on le fait, je parle vraiment à titre personnel et c'est partagé par de nombreux jeunes républicains, c'est ce qui crée l'esprit militant. C'est ce qui crée l'esprit militant et c'est ce qui permet de lancer aussi une dynamique à l'élection présidentielle au sein des jeunes républicains, au sein des jeunes en règle générale. Après, je le disais avec le cercle de réflexion Athéna, on a pu participer aussi au niveau intellectuel. Et je pense que c'est ce qui est essentiel et aujourd'hui, chez les républicains, on nous donne cette opportunité. Et je pense qu'elle est à saisir.
Vous, les jeunes, vous servez beaucoup des réseaux sociaux. On sait, vous êtes très actifs, vous, mais aussi d'autres. Non, est-ce que, par rapport au parti, en tout cas au mouvement d'Éric Zemmour, vous êtes en deçà de ce qu'ils font sur les réseaux, sur la toile? Est-ce que vous êtes quelque part distancé par la génération Z, comme elle s'appelle?
Oui. Alors, distancé, je ne sais pas si c'est le terme approprié. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont présents sur les panneaux d'affichage. Mais c'est vrai qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Il y a toute une campagne, je dirais, de l'ombre qui est mise en œuvre. Je ne pense pas qu'on soit distancé. Vraiment.
Est-ce que vous leur avez laissé le terrain, finalement ?
Non, pas du tout. Je pense qu'on est présent et largement présent sur le terrain. On fait régulièrement des campagnes d'affichage, des campagnes de tractage sur les marchés, que ce soit Montauban, Castelsarrasin, Moissac, Caussade. Je pense pas qu'on leur laisse de la place.
Alors, plus d'un jeune sur deux a exprimé un vote protestataire à la dernière présidentielle, soit à l'extrême gauche pour Jean-Luc Mélenchon, soit à l'extrême droite pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est un effort que vous devez faire, c'est plus de proactivité auprès des jeunes pour les rallier finalement à votre cause, ou c'est un combat perdu d'avance, selon vous ?
Non, moi je pense qu'il ne faut jamais se résigner à ça. Le combat perdu d'avance, il n'existe pas pour moi. Je pense qu'il faut être davantage pédagogue envers les jeunes et leur laisser leur place. C'est ce qui permet de les intéresser à la chose publique, c'est ce qui permet de les faire participer aux élections, et c'est ce qui permet de les intéresser et d'éviter les votes protestataires, très souvent, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont dus à des incompréhensions.
Solange, je vous propose de marquer une courte pause musicale et on se retrouve tout après pour notre entretien.
Merci.
Un beau jour, peut-être, en un monde más allá. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin, où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Tout est écrit là dans nos lignes. Tout au fond de moi le monde a changé, changé. Tout au fond de moi le voile est tombé. Tout autour de moi le vent va tourner, tourner. Une autre réalité. Y camino, yo camino, si camino dans cette course solitaire sous les étoiles. Camino, si camino, yo quiero ver. Camino, n'importe que me caiga. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin, où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Toi, comme un appel, hey, n'entends-tu pas? Il est un monde, un rêve, un lieu, un cri de joie. Un arc-en-ciel, ouais, ton rêve à toi. Il est un monde, un rêve, ouais, tout au fond de toi. Comme un appel, hey, n'entends-tu pas? Il est un monde, un rêve, un lieu, un cri de joie. Un arc-en-ciel, ouais, ton rêve à toi. De ton rêve à toi, de ton rêve à toi. En un mundo más allá. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin, où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais, je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain.
Souvenir de demain, c'était Flo de la Vega sur CFM Radio, c'est votre mag du Tarn-et-Garonne, c'est Politiquement Votre, votre magazine politique, aujourd'hui avec Solal Géa, responsable des jeunes Les Républicains du Tarn-et-Garonne.
Et conseiller municipal à la mairie de Montauban, en charge de la jeunesse, c'est ça, monsieur Géa ? En charge de la jeunesse
et... Tout à fait, je suis délégué à la vie étudiante depuis juin 2020 et tout récemment aux affaires juridiques.
Aux affaires juridiques. Alors, on va aborder, si vous le permettez, le chapitre politique politicienne, sans être dérangeant à votre égard, mais... Une campagne se prépare activement, et nous allons aborder le chapitre de la présidentielle, mais une question sur les jeunes et la politique, leur positionnement. Souvent, les jeunes qui s'engagent, qui militent dans la lutte contre le réchauffement climatique se sentent plutôt à gauche de l'échiquier politique. Est-ce que, finalement, la question écologique ne se traite qu'à gauche ?
Écoutez, je ne pense pas, pour faire un court rappel historique, le premier ministère de l'écologie a été fait à droite, sous Pompidou.
Mais c'est pas un champ que vous prenez volontiers. De prime abord, on vous attend plutôt sur des thématiques plus régaliennes, notamment la sécurité ou l'économie, mais moins sur des questions climatiques. Est-ce que vous l'entendez ?
C'est vrai, et je pense que ce fut une erreur de longue date. Aujourd'hui, la préoccupation écologique, elle est au cœur de l'ensemble des candidats et l'ensemble des militants de la classe politique. Elle est essentielle, on le voit, effectivement, que notre impact sur Terre, nos actions ont une conséquence parfois désastreuse sur l'environnement. Mmh. Donc effectivement, il faut se saisir de ça, et les jeunes, particulièrement les jeunes, s'en sont saisis déjà.
Chez les Républicains aussi ? Est-ce que vous, dans votre programme, vous axez sur cette thématique-là ? Est-ce que vous... est-ce que c'est un sujet qui vous parle chez vous ?
Tout à fait. Les thématiques du programme de Valérie Pécresse sont dévoilées petit à petit. Le programme de l'environnement sera très bientôt dévoilé, mais voilà, en tout cas, ça commencera par une réindustrialisation du pays pour diminuer nos empreintes carbone. Ça, c'est essentiel. Ça, ce serait la première mesure phare à mettre en œuvre, et après, les autres suivront par la suite.
Alors, le lancement par Emmanuel Macron du plan nucléaire d'ici à 2030, est-ce que ça, c'est finalement une bonne chose, ce qu'il a annoncé ?
À mon sens, oui, mais j'ai envie de dire, il était temps. C'est Emmanuel Macron qui a fermé, notamment Fessenheim, qui a fermé des réacteurs. Je pense qu'il copie un petit peu ce qu'on dit déjà depuis plusieurs mois chez les Républicains, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est une énergie qui est essentielle à la France. Et on voit ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a tout fermé, nous rachète aujourd'hui l'énergie.
Alors, sur votre campagne de Valérie Pécresse, sur le terrain, comment elle se passe ? Comment vous activez vos réseaux ? Vous allez tracter, j'imagine. Vous êtes. On ne vous voit pas trop, en fait, sur Montauban.
Alors,
la campagne est lancée.
Bien sûr, elle est lancée. Nous avons lancé, il y a 2 semaines, le comité de soutien à Valérie Pécresse, qui est présidé par Brigitte Barège, qui est présidente des Républicains, maire de Montauban, co-présidé également par Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne, et le général Moulinier. On a fait, je le disais tout à l'heure, de nombreuses opérations de tractage, d'affichage, mais effectivement, c'est à poursuivre. Rien ne doit s'arrêter, on doit poursuivre nos efforts, mais nous sommes bel et bien présents sur le terrain.
Vous êtes sur le terrain, mais vous avez certainement regardé, j'imagine, le meeting de Valérie Pécresse qui a tant fait parler.
Bien sûr.
Un meeting assez critiqué aussi, y compris dans ses rangs. Comment vous l'avez trouvé, vous, Valérie Pécresse, dimanche ?
Alors, tout d'abord, il y avait près de 10 000 personnes à ce meeting. C'était un meeting, pour celles et ceux qui étaient présents, exceptionnel. Nous avons eu plus de 2000 jeunes républicains qui étaient présents. Je pense que c'est à souligner et ça montre la mobilisation exaltante. Moi, je pense que certains ont été un peu durs avec Valérie Pécresse.
Mais y compris dans son camp. Hein.
Oui, bien sûr.
Pas assez incarnante. Où est l'animal politique pour combattre Macron, Le Pen et Zemmour ? C'est interrogé un parlementaire de républicain. C'était le Titanic a dit un autre. Est-ce que ce sont des critiques injustes ?
Oui, non, je pense qu'il faut relativiser les choses. C'est vrai que si vous voulez des orateurs, Valérie Pécresse en a nommé. On a Geoffroy Didier, on a Othmane Nasrou, on a Guilhem Carillon, le président des Jeunes Républicains. Si effectivement vous voulez des gens pour faire
des
discours, des tribuns, etc., on en a. Valérie Pécresse, c'est une femme qui travaille le fond. C'est une femme qui travaille le fond, qui travaille l'essentiel. On a vu ce que donnaient les belles paroles d'Emmanuel Macron depuis 2017.
Alors, dans son programme, Valérie Pécresse, qu'est-ce qui, d'après vous, va faire en sorte que les gens aillent plus vers elle que vers Marine Le Pen ou Éric Zemmour ? Ce sont ses principaux adversaires, en tout cas ceux qui la talonnent dans les sondages.
Bien sûr. Moi, je pense que, tout d'abord, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Mmh. Et c'est ce que veut faire Valérie Pécresse, c'est créer un véritable choc du pouvoir d'achat. Ça va commencer par quelques mesures qui sont à la fois concrètes et rapides. On aura une hausse de 3% des salaires nets dès l'été 2022. Ça, c'est du concret qui sera réalisé avec une baisse de 2,4% des cotisations vieillesse des salariés. Et toute cette évolution se poursuivra sur 5 ans, puisque nous aurons une hausse de 10% des salaires sur 5 ans. Mmh. Ça, c'est du concret.
Mais ça, c'est d'accord, le pouvoir d'achat.
Bien sûr.
Est-ce que, en contrepartie, est-ce qu'on doit s'attendre à une réforme plus dure de la retraite, à une baisse significative du nombre de fonctionnaires? C'est ce qu'en tout cas, elle avait souhaité lorsqu'elle était rentrée en campagne, et notamment lors de la primaire des Républicains. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que c'est une marche à suivre qu'il faut prendre?
Bien sûr.
Alors, réduction du nombre de fonctionnaires.
Effectivement, il y aura une réduction du nombre de fonctionnaires, et notamment au niveau de l'administratif dans l'hôpital. A contrario, il y aura une augmentation des recrutements dans les hôpitaux. Mais vous parliez tout à l'heure de retraite. L'une des mesures phares de Valérie Pécresse concernant le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les retraites. C'est de faire que le minimum retraite soit égal à un SMIC. Et ça, moi, je pense que c'est essentiel, et c'est une véritable réforme des retraites à mener.
Alors, entre Emmanuel Macron, qui séduit certains dans votre camp, et on l'a vu dernièrement avec Éric Woerth, qui rejoint le président, Jean-Pierre Raffarin, qui a dit qu'il voterait Emmanuel Macron, la maire de Calais aussi, qui a appelé à voter Emmanuel Macron, entre ces personnes-là qui sont séduites par ce discours libéral, européen, et d'autres qui sont séduits par le discours de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui séduisent une partie de la droite conservatrice, très ancrée sur le régalien, sur la sécurité, où se situe finalement la place de Valérie Pécresse? Que reste-t-il à Valérie Pécresse?
Je pense qu'il reste beaucoup de choses. C'est vrai, vous le disiez, on a eu des départs, comme il y en a eu dans toutes les formations politiques. Ce sont des personnes qui doivent beaucoup à notre famille politique, les Républicains, qui ont été élus. Je parle d'Éric Woerth, qui est président de commission, parce que les Républicains l'ont mis président de commission. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont à la soupe. Et c'est assez dommageable, mais nous avançons, et nous conservons nos alliés, et nous avançons sereinement.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui différencie finalement Valérie Pécresse d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen? Valérie Pécresse a appelé... Est-ce que c'est... D'ailleurs, je voudrais vous poser la question sur cet appel qu'elle a lancé en disant « J'espère qu'Éric Zemmour appellera à voter pour moi au soir du premier tour. Mmh. » Est-ce que ça brouille pas finalement l'image de votre parti?
Pas du tout. Éric Zemmour se réclame à tort du RPR, ce qui est une erreur totale. Vous parliez qu'est-ce qui peut différencier Valérie Pécresse d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen, c'est surtout qu'est-ce qui différencie Éric Zemmour de Marine Le Pen. On a là bonnet blanc et blanc bonnet, les deux sont les mêmes. Aujourd'hui, la personnalité candidate qui peut battre Emmanuel Macron au second tour, c'est Valérie Pécresse, et tous les sondages le démontrent. Emmanuel Macron, effectivement, s'il est face à Éric Zemmour ou Marine Le Pen... Il est sûr d'être réélu. Voter Éric Zemmour, voter Marine Le Pen, c'est voter Emmanuel Macron.
Ouais. C'est pas aussi binaire. Est-ce que Valérie Pécresse, est-ce que finalement, elle ne s'intéresse pas trop au second tour et pas assez au premier tour? Parce qu'on a l'impression qu'elle enjambe, qu'elle souhaite enjamber ce premier tour alors qu'elle n'y est pas au second tour. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une erreur de stratégie là, en la matière?
Pas du tout. Moi, je pense qu'effectivement, elle a raison de se consacrer sur ça. On a aujourd'hui, parce que vous parlez d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il n'est toujours pas candidat.
Bon, il va l'être, prochainement.
Ah, vous avez des infos?
Non, mais ça crée des polichinelles.
Effectivement, je ne vais pas vous spoil, mais Emmanuel Macron sera candidat à sa succession. Mais tout cela pose un problème de sincérité démocratique. Aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron, à bon dos, il se pavane un petit peu. On a vu ce qu'il faisait avec Vladimir Poutine, son intervention en Russie. Moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de sincérité de la part d'Emmanuel Macron.
Michel, nous arrivons au terme de notre émission. Je voudrais vous poser une question. Si vous étiez, vous, Solal Géa, au soir du second tour, les Français et les Françaises vous ont élu président de la République, titre emblématique, quelle serait votre première décision, finalement, à vous?
Bien, écoutez, je pense que ma première décision porterait sur le pouvoir d'achat, et plus particulièrement sur les retraites des Français. Aujourd'hui, le minimum retraite est de 713 euros pour les personnes qui ont cotisé 120 trimestres. Moi, la première réforme que je porterai, c'est effectivement une réforme, c'est un peu finalement ce que porte Valérie Pécresse dans son programme, c'est augmenter le minimum retraite, l'augmenter à un SMIC net par mois, ce qui permettrait une retraite décente pour vivre dans la dignité.
Est-ce que vous pourriez, vous, porter les couleurs de votre parti pour les élections législatives prochaines ?
Non, à titre personnel, non. Je pense avoir trouvé mon équilibre. Aujourd'hui, j'ai mes études, j'ai la responsabilité de manager les jeunes républicains dans le Tarn-et-Garonne. Je pense qu'il faut savoir prendre son temps, ne pas griller les étapes et laisser la place à ceux qui sont faits pour ça et qui peuvent gagner les élections législatives.
Ce sera qui pour les républicains ?
C'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est en discussion. On a dans le Tarn-et-Garonne deux circonscriptions, Circo 1 de Montauban et Circo 2 Castel-Moissac. C'est en cours de discussion.
Bon, vous reviendrez peut-être pour nous le dire.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Soulal Géa, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio.
Merci à vous.
On se retrouve donc jeudi prochain, Aurélien.
Merci, Kader. À jeudi prochain.
Merci.
Cet entretien, il sera à réécouter ce soir à partir de 17h, également à 21h30 et puis en podcast sur cfmradio.fr.